Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Parlons de la foi.
Parce
que la foi et la créativité vont ensemble. Hébreux chapitre 11, verset 6, notre verset de référence. C'est ce sur quoi nous avons construit cet enseignement qui dure depuis plusieurs semaines maintenant. La Bible nous dit, or sans la foi, il est impossible de lui plaire, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur ou qu'il récompense ceux qui le cherchent.
Ngo kandi utizera ntibishoboka ko ayihimbara kuko uwegera Imana akwiye kwizera yuko iriho igahimpera abayirondera.
On a vu clairement que ici Dieu nous donne un certain nombre de choses dans sa parole qui nous montrent ce qu'est la foi.
Twarabonye ko ngaho ijambo ry'Imana twereka ibintu mu ijambo ryayo bitwereka icyo ari cyo kwizera.
Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Je vous rappelle que la foi, c'est quelque chose que vous devez avoir pour vous approcher de Dieu. Ce qui plaît à Dieu, ce n'est pas tes jeûnes, ce n'est pas tes prières, ce n'est pas tes larmes, ce n'est pas tes plaintes, ce n'est pas tes cris.
Ce n'est
pas tes œuvres.
C'est
ta foi.
Si
tu veux impressionner Dieu, impressionne-le par ta foi.
Vous
vous rappelez de ce centenier qui est venu vers Jésus parce qu'il avait un serviteur mourant. Et il lui a dit, Seigneur, je ne suis même pas cru digne que tu viennes sous mon toit. Mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Et la Bible nous dit que Jésus admira le centenier. Si tu veux que Jésus t'admire, marche dans la foi. Relève les défis de la parole de Dieu.
Et
que ce que Dieu te montre, tu puisses le voir un jour avec tes yeux. Donc, il est impossible de lui plaire. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et là, je vous ai montré le premier type de foi, c'est la foi des sens. Et je vous ai montré que Dieu se sert de ce type de foi très souvent au départ. Et je vous rappelle qu'ici, croire, ça ne veut pas dire simplement je crois en Dieu d'une façon globale, je crois qu'il y a un Dieu qui existe. C'est voir Dieu intervenir dans des situations humaines avec tes propres yeux. Tu dis waouh.
Ariko ni kwizera kuvuye kukubona ibyo Imana yakoze mu buzima bw'abantu ukavuga uti eh birashoboka.
Tu es impressionné et tu dis vraiment il y a un Dieu qui est là et qui est capable d'intervenir dans la vie d'une personne et dans ma vie personnelle.
Ugakanga ukavuga uti hari Imana ishoboye gukora ibikomeye mu buzima bw'abandi no mu buzima bwanje irashoboye kubikora.
Je vous ai montré que souvent ça éveillait l'attention des inconvertis.
Narabereke ko kenshi ibintu mwene ibyo usanga bikangura ukugaba kw'abapagani.
C'est une première phase avant de donner sa vie à Jésus-Christ, c'est-à-dire de croire que Dieu existe, c'est-à-dire que Dieu est tangible, est réel, est personnel.
Kenshi niyo ntambwe ya mbere ishikana abantu kukwizera no kwakira Yesu kubona ko Imana iriho ikora ifadika.
Souvent dans les religions traditionnelles, on parle d'un Dieu qui est très général.
Kenshi mu madini yakavukira usanga bavuga Imana rusangi y'abantu bose.
Mais pas un Dieu qui est personnel.
Ariko ntibakubwira Imana yiwawe ishobora kuba gwawe.
Et cela crée beaucoup de désordre, cela projette une mauvaise image de Dieu.
Ibyo bigaca bitanga igicapo kitari cyo cy'Imana.
Donc je vous ai montré que c'est une foi, souvent, les gens sont attirés en quelque sorte par rapport à des signes, des prodiges, des miracles.
Je vous ai
donné pas mal d'exemples dans l'Écriture. Je vous ai montré aussi comment parfois des choses qu'on peut faire, de bonnes choses qu'on peut faire, peuvent aussi attirer la faveur de Dieu et les miracles de Dieu.
Danabereke kugira ibintu byiza dushobora gukora bishobora gukwega ibitangaza no gutoneshwa n'Imana.
Je vous ai montré que Jésus cherchait toujours la foi.
Danabereke ko
chez les personnes envers qui il exerçait un ministère.
Yamarondera kwizera ku bantu ariko arakora ku igikorwa cy'Imana.
Le paralytique qui a été guéri porté par quatre personnes n'a pas été guéri parce que simplement ils l'ont fait descendre devant les yeux de Jésus. Mais il y avait une atmosphère de foi pour que leur ami sorte avec son miracle. Et c'est ce qui s'est passé. Jésus cherchait toujours la foi, qu'il soit fait selon votre foi. Ma fille, ta foi t'a guéri. On a vu aussi que la foi peut se percevoir souvent chez les gens. On a vu aussi, après, donc on a commencé à parler de la foi biblique, c'est là où nous sommes. On a vu qu'il y a la part de Dieu et notre part. Concernant la foi, il y a trop de gens qui prient, qui disent voilà, Dieu, tu dois faire, tu dois faire. Et moi, j'ai rien à faire. C'est faux. Tu as ta part à jouer, nous allons la voir d'ailleurs. Croire est un actif. La foi biblique, c'est quelque chose qui agit. La foi biblique, c'est pas dire Dieu, je te demande si, je te demande de me guérir, et moi, je reste dans mon coin à penser à autre chose et à rester dans mes symptômes de maladie. Non, tu vas agir sur ta foi. Car nous avons vu que la foi sans action ne produit rien. Il y a beaucoup de gens qui essayent la parole de Dieu et qui sont très déçus. Je vous l'ai montré par exemple dans les finances. Les gens sont là, ils essayent, ils disent je vais essayer de donner ma dîme. Tu vas t'appauvrir. Parce que si tu essaies la parole de Dieu, il n'y aura jamais de fruits. On n'essaye pas la parole de Dieu. On agit sur la parole de Dieu. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, il y a notre part à faire. Nous avons vu par exemple dans cette pêche miraculeuse. Ils n'avaient rien pêché pendant toute la nuit, des mauvaises circonstances. Et Jésus leur dit, jetez le filet maintenant. De ce côté-là du bateau. Pierre dit, c'est vrai, on n'a rien pris, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et il va agir sur la parole de Jésus. Et là, il va faire cette pêche miraculeuse. Pierre avait dit non, Seigneur, je ne vois aucun poisson autour du bateau. Et bien, il n'aurait rien vu. C'est la même chose quand Pierre était dans la barque. Jésus lui dit, viens. Et Pierre agit sur cette parole. Donc, tu as ta part à jouer dans la foi. Ne pense jamais que tu ne dois rien faire quand tu as la foi. Ça, malheureusement, c'est quelque chose que beaucoup de gens croient. Et c'est faux. Nous avons une part à jouer. Notre foi doit être activée. Elle doit rester active jusqu'à temps qu'elle accomplisse. C'est ce que Hébreux 11 nous dit, je vous le rappelle dans la troisième partie. Et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Qu'il salarie, je vous ai montré. Ce verbe, c'est le verbe salarier. Donc, tu vas faire œuvrer ta foi jusqu'à temps d'obtenir le résultat désiré. Parce que si tu ne fais pas œuvrer ta foi, si tu n'agis pas sur ta foi, et on va voir comment le faire, eh bien, tu ne verras pas le résultat désiré. Dieu ne va pas rémunérer ta foi. Et c'est dans ce sens-là que la Bible nous parle dans ce verset. Une rémunération de notre foi. Notre foi, on va la faire travailler, on va la faire œuvrer. Nous allons voir comment. Mais c'est très important de comprendre ce principe. Parce que beaucoup de gens essayent la foi et ça ne fonctionne pas. Il va falloir que tu apprennes à agir sur la foi et à faire travailler ta foi en vue de voir ce pourquoi tu crois.
Muntumbere yo gushikira ico wizereye.
Parce que dans la foi,
kubera mu kwizera,
comme nous l'avions vu la dernière fois,
nkuko twabonye mu misi
heze, il y a cet aspect des promesses de Dieu.
Harimo ikintu cyuko harimo amasezerano.
Je vous rappelle qu'il ne peut pas y avoir de foi là où Dieu n'a pas parlé.
Ndakwibutse nta kwizera kubaho Imana itavuze.
La foi commence là où il y a une parole de Dieu.
Ukwizera gutangurira hari ijambo ry'Imana.
Et je vous ai montré qu'il y a deux sources par lesquelles Dieu nous parle.
Naberetse ko hari amasoko abiri Imana icamwe mu kuvugana natwe.
La première source et la principale, c'est la parole de Dieu ici. Dieu nous fait des promesses sur lesquelles tu peux appuyer ta foi. Si tu n'as pas de promesses, tu ne peux pas appuyer ta foi. C'est-à-dire que tu essaies de croire quelque chose qui n'est pas promis dans la parole de Dieu. Par exemple, tu peux dire, je crois qu'il y a un ange qui va m'apparaître. Tu n'as aucune promesse de Dieu en disant tu vas croire qu'un ange va t'apparaître, que l'ange va apparaître. Non, il y a des apparitions d'anges dans la Bible. Mais c'est selon l'initiative de Dieu. Ce n'est jamais quelque chose pour lequel tu peux dire je crois, Seigneur, je te prie que à telle heure, tel jour, il y a un ange qui m'apparaisse et je le crois.
Je
te garantis, ce jour-là, tu ne vas pas voir un ange, tu vas voir autre chose, un démon, oui, ça c'est sûr. Mais Dieu, on n'a pas, par exemple, on ne peut pas accrocher notre foi dans ce domaine-là.
Vous
voyez, il vous faut une promesse sur laquelle vous allez appuyer votre foi. C'est la même chose si Dieu vous parle personnellement. Là, vous avez une promesse en disant, Seigneur, tu m'as dit que. Mais tu ne peux pas t'emparer d'une promesse que quelqu'un d'autre a eue. Tu
ne
peux pas dire, par exemple, si Steve a reçu des promesses pour sa vie, tu
vas
dire,
oh,
Steve, tu as reçu ces promesses-là.
Bon,
si je vais croire comme toi. Non, tu ne peux pas appuyer ta foi, parce que ça, c'est une promesse spécifique. Qui fait partie de ce qu'on appelle sa destinée, c'est-à-dire le plan que Dieu a écrit à l'avance pour lui. Et tu ne peux pas accrocher ta foi sur quelque chose que Dieu ne t'a pas dit. Alors maintenant, je vous ai montré que la foi, on a vu Romains 10, 17, on va remettre Romains 10, 17, s'il vous plaît. La foi vient d'où ? Vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu. Romains 10, 17, il est dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole du
Christ.
Très important à comprendre. Et je vous ai montré qu'il y a deux mots qui ont été traduits par parole. Le mot logo, c'est le mot rhéma. Je vous ai dit que le logo, c'est l'expression. Dieu s'exprime, Dieu parle. Il a parlé par sa parole. Il te parle personnellement. Ce sont les promesses. Ça, c'est le logos. Mais ça ne te garantit pas. Si tu as le logos, si tu as une promesse dans la Bible que tu lis, si Dieu t'a parlé personnellement, ce n'est pas la garantie que avant le dernier souffle, ta dernière respiration sur cette terre, que ça va s'accomplir dans ta vie. Et ça, c'est souvent ce que les chrétiens pensent.
Ah,
c'est sûr, Dieu m'a dit ça, donc ça va se produire. Et ça, c'est les gens qui se déresponsabilisent. Dieu a dit dans sa parole que ça, donc, de toute façon, ça va se produire. Non, il a besoin de ta collaboration. Il a besoin de ta collaboration. Tu dois œuvrer avec Dieu. Tu es ouvrier avec Dieu. Pour voir sa puissance passer et ses œuvres se produire. Tu ne verras pas les choses se produire d'elles-mêmes. Et nous allons l'étudier dans la vie du personnage qui est le père de la foi. Et nous allons découvrir, bien sûr, que c'est Abraham. Maintenant, ce logos, qui est une promesse, Une promesse, c'est l'espérance. Ta foi est basée sur ce qu'on appelle l'espérance. Regardez Hébreux chapitre 1, verset 11. Il est dit dans Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc on voit bien ici, on dit que la foi c'est quoi ? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. L'espérance c'est la promesse, c'est ça qu'il faut vous comprenir. Une espérance n'est jamais une réalité. Si tu dis, j'espère que j'aurai un boulot avant les 3 mois, ça veut dire que tu n'as pas encore le boulot, puisque tu espères avoir ce boulot. Ton espérance est un bon souhait. J'espère que l'année prochaine, je serai débarrassé de cette maladie. C'est un bon souhait. C'est l'espérance. Mais ce n'est pas la réalité, ça veut dire qu'encore tu es malade. Si tu dis, j'espère que l'année prochaine je pourrai m'acheter une voiture, c'est quelque chose de futur. C'est l'espérance, tu vois ta voiture, tu t'imagines ta voiture, tu dis, ah oui, j'aimerais bien en plus une blue TI. Il faut parler comme les jeunes, hein, parce que sinon ça ne va pas. Tu dis, j'aimerais bien avoir ça. Mais pour l'instant, tu roules avec tes chaussures et tes pneus sont troués. Donc pour l'instant, c'est un souhait. Parce que tu es fatigué de marcher à pied. Ce qui peut se comprendre. Parce que tu as des promesses, mon Dieu, pour voir à tous mes besoins. Mais pour l'instant, c'est un souhait, ce n'est pas la réalité. Donc quand Dieu te donne une promesse, c'est un souhait, c'est ce qu'il veut pour toi. Écoutez bien ce que je vais vous dire ici. C'est comment, c'est la façon comment Dieu te voit prophétiquement et veut que tu sois. Je vais vous montrer que dans la foi, Dieu nous voit toujours prophétiquement dans l'état dans lequel il veut que nous soyons. La vraie foi à maturité, c'est arriver à comment Dieu nous veut dans la finalité dans notre vie. C'est ça la vraie foi et la maturité dans la foi. Parce que Dieu te donne des promesses et lui il te voit, et je vais vous montrer ça dans l'écriture, c'est très intéressant. Je méditais la semaine dernière là-dessus et encore cette semaine, et je trouve que c'est vraiment intéressant. Vous allez voir comment Dieu va considérer
Abraham.
Donc l'espérance c'est en fait le logos. Dieu te dit, par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Il te dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc tu dis, je ne manquerai de rien. Mon Dieu pourvoit tous mes besoins selon sa richesse. Avec gloire en Jésus-Christ. Tout ça, ce sont des promesses. Tout le monde dit, promesse.
Promesse.
Et dites, une promesse, c'est toujours futur.
Une promesse est toujours future.
Mais la foi va amener
ses promesses
à la réalité. C'est pas compliqué, mais c'est très important à comprendre. Si vous comprenez ça, déjà vous comprenez un principe de la foi. Donc tant que tu es dans le logos, tu es là, tu souffres, tu as tes galères, tes difficultés. Et tu es tes circonstances ne changent pas.
Mais
tu entends la parole de Dieu et tu dis Amen, Alléluia.
Ça te réjouit.
Tu
entends
la parole et tu es content.
Tu as
un Raoul Wafo qui arrive et tu fais Alléluia.
Et tu vas faire Amina. Tu sors du
séminaire, t'es gonflé comme ça. Tu dis, là, je suis prêt à affronter mes circonstances. Eh bien, ça va être prouvé si effectivement tu vas affronter tes circonstances. Vous savez, la parole de Dieu et nous, les ministères, nous sommes là pour transmettre la parole de Dieu, pour motiver les gens, non pas avec des jolis mots et pour qu'ils sortent tout contents, mais pour qu'ils soient motivés dans leur foi et qu'ils amènent les promesses de Dieu à la réalité dans leur vie. C'est notre travail d'aider les gens.
Être
dans le ministère, c'est aider les gens, c'est pas pomper les gens.
C'est
pas escroquer les gens,
mais
c'est aider les
gens,
leur montrer qu'est-ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent le faire,
les amener
dans le droit chemin du Seigneur. C'est l'œuvre du ministère. Et cette, ce logos que tu reçois, ce n'est pas la réalité. C'est une promesse. Tu peux t'en réjouir de toute forme. Tu peux le chanter dans la louange. Déclarer que tu es plus que vainqueur. Mais maintenant, il faut que cette chose devienne une réalité dans ta vie. Et ça, c'est le réma. Ça veut dire que cette parole doit descendre de ta tête, de tes sentiments qui peuvent dire vraiment c'est ce que je veux. Il faut que ça descende en toi. Et pour cela, il va falloir que tu apprennes à t'entourer d'une atmosphère de foi.
Et
il y a beaucoup de choses qu'il faut apprendre à faire. Mais là, on va faire une parenthèse. Parce que ce que je veux, c'est que vous compreniez des perspectives de la foi. Vous savez, dans la vie, il y a deux choses que vous devez comprendre par rapport à la foi. Deux directions de votre foi. Vous savez, il y a, par exemple, il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens et même beaucoup de prédicateurs d'ailleurs, qui sont tout le temps en train de dire oh, la vie est dure. Steve, il y a beaucoup de fardeaux dans la vie.
Si
tu veux un jour servir le Seigneur, il y aura beaucoup de fardeaux en plus dans ta vie.
La vie est
faite de fardeaux et de difficultés. Le diable nous attaque souvent. La maladie se trouve à notre porte. Nous avons des difficultés financières.
C'est
dur. Mais Dieu soit béni, nous avons la foi.
Et
nous sommes dans le combat. Et le combat, et chaque jour, notre vie est un combat devant les difficultés. Et il y en a qui passent leur vie à ça. À combattre leurs difficultés. Vous les rencontrez cette année, ils vont vous raconter toutes leurs difficultés. Mais ils prient. Et ils pensent que ça ira mieux un jour. Et 5 ans plus tard, vous les retrouvez toujours pareil. Même discours, même histoire. Ou alors, s'ils se sont sortis d'une histoire, ils en ont récupéré une cinquantaine. Ils ont échangé un fardeau contre 50. C'est toujours des gens qui vont vous parler problèmes, difficultés. Ils vont vous dire qu'ils y arrivent presque, que Dieu va faire ça, que ceci, que cela. Mais en fait, ils n'accomplissent rien. Il y a beaucoup, beaucoup de chrétiens dans le monde qui sont comme ça. Vous les retrouvez 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, 20 ans plus tard, toujours les mêmes histoires. Ils prient tous les jours, ils
lisent
la Bible tous les jours, ils sont à l'église tous les jours, non, c'est pas tous les jours. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Ils sont de bons chrétiens. Le problème, c'est qu'ils sont toujours en train de se débattre avec leurs petites histoires. Ils n'ont pas compris les principes de la foi.
Quand
tu sors du monde et que tu rentres dans le royaume de Dieu, il y a un temps où tu vas te débattre dans la foi parce que tu es bébé spirituel.
Et
tu apprends à marcher dans la foi.
Et
là, c'est vrai, bah, tu as tes combats parce que tu sors du monde.
Et
tes grandes batailles, ça peut être des batailles sur ton propre caractère que tu dois complètement transformer.
Les
mentalités du monde.
Ça peut
être un problème de pauvreté dans laquelle tu es né, dans laquelle on t'a toujours mis et on t'a toujours dit tu seras pauvre.
Ça peut être
des maladies que tu as depuis ton enfance.
Ça peut
être des difficultés du chômage, de tout ce que tu
veux.
Donc en fait, tu as des grosses montagnes qui sont
là. Et c'est
normal.
Elles
sont là, tu viens de naître de nouveau.
Mais il va falloir
que tu apprennes à les dominer.
Wiga rero cyogiye kubiganza.
Il faut que tu apprennes à les dominer et à stabiliser ta vie spirituelle.
Wiga kubiganza no guhagarara neza mu gakiza kawe.
Donc tu vas commencer à grandir dans le Seigneur.
Ugatangura gukura mu gakiza.
Et là aussi il faut que tu sois bien nourri.
Naho nyene ukeneye kufungurirwa neza.
Parce qu'il y a des gens qui sont nourris avec des enseignements qui sont anti-scripturaires.
Kuko harabo bagaburira n'inyigisho zidahuye n'ijambo ry'Imana.
Qui poussent tordus et handicapés.
Agacakura acuramye akikamye kandi amugaye.
Et au bout de 20 ans ils sont
myaka 20 iheze ugasanga ateye nkuko nyene.
Amen, alléluia. Sont combien de monde handicapés ces gens-là?
Ugasanga umuntu yaramugaye.
Vous savez, des fois on va dans des églises, je vous assure, des fois je vais prêcher dans des églises. Yo mama, oui. Ya.
Hari gihe umuntu aja kuvuga ubutumwa
mu mashyaka. On voit les gens, ça fait 10 ans, 20 ans certains qui sont convertis.
Ukabona nk'abantu bamaze imyaka 10, 20 bakijijwe.
Mais on voit qu'ils sont paralysés spirituellement. Ça se voit sur leur visage. Complètement tordus.
Ça fait
10 ans, 15 ans, 20 ans qu'ils sont dans une
église.
C'est triste de voir ça.
Il y a un
temps où tu dois sortir de tes problèmes. Si au bout de 5, 10 ou 20 ans, tu es encore en train de dire « Il faut prier pour moi parce que j'ai des problèmes » et ça fait 50 000, 015 fois qu'on prie pour le même problème,
ça veut
dire que soit tu as mal été enseigné, soit tu es incapable de prendre la parole de Dieu et de te tenir sur la parole de Dieu. Il y a un temps, mais je sais qu'il y a des gens, je ne sais pas pourquoi, ils aiment. Oh, gloire à Dieu, Menachem, et son énafis et gorané. Ils aiment ça. On a l'impression qu'ils aiment. C'est ce qu'ils ont envie d'entendre. J'ai des problèmes. Oh, mon pauvre petit. Oh, on va prier.
Fasha, sengera, damerewena.
Ça, c'est des gens qui sont handicapés spirituellement. Il y a un temps où tu dois dominer tes circonstances.
Il y
a un temps où tu dois dire dans ta vie, maintenant ça suffit.
Il y
a un temps où tu dois dire, non, je ne vis pas une vie chrétienne normale par rapport à ça, par rapport à ce que dit la parole de Dieu, je veux que ces choses-là changent dans ma vie.
Et
là, tu vas stopper ce que le diable avait prévu de faire contre ta vie. Tu vas dominer sur ces circonstances. Et tu vas leur dire, maintenant, ça suffit. Tu vas déclarer la guerre à ta maladie. Tu vas déclarer la guerre à ta pauvreté. Tu vas déclarer la guerre à toutes sortes de choses qui t'ont empoisonné la vie. Que le diable et les circonstances avaient planifié contre toi. Et tu vas les dominer. Et ça fait une partie de notre vie par la foi. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Le jour où vraiment tu as dégrossi ton terrain que tes gros problèmes sont partis, que de temps en temps il y a encore quelque chose à batailler, mais c'est pas grave. C'est pas le jour où tu dois t'asseoir. Et de chanter les jolies chansons d'Apollinaire. Comprenez ce que je veux dire par là, dans le sens de chanter des chansons chrétiennes. D'avoir une petite vie tranquille. Mais non, si tu es en pleine forme, qu'est-ce que tu vas faire? C'est le temps pour toi de dominer et d'amener les choses que Dieu t'a dites à être réalisées, c'est-à-dire de construire. Il y a un temps où tu dois rebâtir ta vie pour que tu aies des repères divins. Mais il y a un temps où tu dois construire la vision divine. C'est pour ça que nous sommes entièrement d'accord dans cette église d'enseigner à propos de la bénédiction de Dieu. Mais nous refusons d'enseigner la bénédiction de Dieu pour que les gens se complaisent dans le « moi, le Seigneur bénit moi, moi et moi ». Si tu es béni, c'est pour devenir une source de bénédiction. Ça veut dire que tu sors de tes problèmes pour être en forme spirituellement, pour pouvoir être une bénédiction pour ta génération. Si tu n'as pas cette vision, et si on ne te donne pas cette vision, tu passes à côté de l'essentiel de l'évangile. C'est pour ça d'ailleurs que par exemple il y a des gens, on leur a enseigné la prospérité et il y a un message extraordinaire de prospérité dans la Bible, mais on leur a dit comme ça, tu pourras avoir des belles maisons, tu pourras manger dans les meilleurs restaurants, tu pourras rouler dans les meilleures bagnoles, point.
Ce
n'est pas l'objectif.
Ça,
c'est le produit dérivé de ta bénédiction. Tu dois être prospère, pourquoi? D'abord, parce que tu dois montrer qu'un enfant de Dieu ne doit pas rester dans la misère. Que Jésus nous a racheté de la pauvreté comme il nous a racheté du péché, comme de la maladie et autres. Donc cette partie de l'évangile, ce pourquoi, le bénéfice de ce pourquoi Jésus est mort à la croix
doit
avoir un effet dans ta vie. Et à ce moment-là, tu sors de tes problèmes et tu vas construire une plateforme financière pour glorifier ton Seigneur, pour financer l'évangile, pour aider les autres. Ça oui. Donc dans votre foi, il y a deux directions importantes. Sortir de choses qui sont inacceptables dans nos vies et construire la vie que Dieu a pour nous. Vous devez toujours avoir ça en tête et dans vos cœurs. Il y a un temps pour sortir de difficultés. Mais il y a un moment où vous devez dire maintenant, il n'y aura plus jamais de problème de ce côté-là. Je ne serai plus jamais malade de ça. Je ne manquerai plus jamais de rien. Il y a un temps où ta foi est assez ferme, où elle te fait marcher sur tes circonstances et plus personne ne peut te faire retourner en arrière. Ça, c'est une foi défensive, une foi où tu abats ces vieux trucs qui te traînent, qui te tirent. Mais ça
ne
va pas s'arrêter là. Parce que sinon tu vas t'endormir. Moi j'ai vu comme ça des églises où on enseignait très bien les gens. Et ils étaient bien gras spirituellement. Ils mangent bien spirituellement. Mais au bout d'un moment ils s'endorment. On ne va plus chercher le pécheur qui est perdu. On n'est plus vraiment motivé. On vit très bien, tout se passe. Très bien, on n'a pas d'ennui. Donc, gloire à Dieu, on attend le ciel parce qu'on va bien. Et ils oublient qu'il y a un monde qui se meurt. Ils oublient qu'il y a une autre vision à construire. Pour aller plus loin, plus haut. Pour voir plus grand. Pour réaliser ce que le Seigneur a pour nous. Ce logos doit descendre dans ton cœur. Il va falloir que tu passes du temps avec cette parole. Que tu médites cette parole. Nous allons voir un homme de foi. Et nous allons encore étudier des principes sur la foi. Cet homme, bien sûr, c'est Abraham, on l'a nommé tout à l'heure. On va lire, un passage dans Romains chapitre 4 qui nous parle de la foi d'Abraham. Mais après, je vais vous expliquer la croissance dans la foi d'Abraham. Parce que c'était un homme qui a su marcher dans la foi. Il est appelé le père des croyants. Qui aimerait être appelé ici le père des croyants? Un père, c'est quelqu'un qui montre un exemple, c'est quelqu'un qu'on respecte. Cet homme-là est respecté dans le monde entier. Pourquoi? Parce qu'il était plus intelligent que les autres? Non.
Oh, yeah.
Parce qu'il a inventé plus de choses?
Non.
Non.
Oh, yeah.
C'est parce que c'était un homme de foi.
Dieu
aime les gens qui ont la foi. Parce qu'il peut œuvrer avec eux. La foi ne fera pas tout pour vous. Mais elle fera beaucoup de choses pour vous. Beaucoup de choses pour vous. Elle éteindra les feux les plus grands qui ont été allumés contre vous. Elle éteindra ces feux les plus grands qui ont été allumés dans votre vie. Mais aussi, elle vous enflammera de zèle pour les plus grandes visions. Elle vous amènera à voir les choses les plus extraordinaires se réaliser. Et ça, c'est extraordinaire. C'est surnaturel. Dans Romains chapitre 4, il est dit au verset 13, « En effet, ce n'est point par la foi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa descendance, mais c'est par la justice de la foi. Or, si c'est par la loi qu'on est héritier, la foi est vaine et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère, et là où il n'y a pas de loi, il n'y aura pas non plus de transgression. Donc, c'est par la foi pour qu'il s'agisse d'une grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui a la loi, c'est-à-dire les Juifs, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, c'est-à-dire nous, notre Père, à tous. » Regardez bien ce verset ici. « Selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père à tous, devant Dieu, en qui il a cru, qui donne la vie aux morts. » Regardez bien ici ce petit morceau de verset. « Et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il crut. » Abraham crut. Il, c'est Abraham. « Et devint ainsi Père d'un grand nombre de nations, selon qu'il avait été dit, « Telle sera future ta descendance. » Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était presque mourant, puisqu'il avait près de 100 ans, et le sein maternel de Sarah était déjà atteint par la mort. Mais face à la promesse de Dieu, il ne douta point par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu, pleinement convaincu de ceci, de ce que Dieu a promis. Il a aussi la puissance de l'accomplir. Nous allons étudier la vie d'Abraham. Nous allons voir comment cet homme a appris à marcher dans la foi. Et d'après une parole de Dieu, il a amené les choses à l'existence dans sa propre vie. Et nous allons trouver son histoire à partir de Genèse chapitre 12. Et je vais vous montrer quand Dieu nous parle au futur et quand Dieu nous parle au présent. Parce qu'au verset 17 ici de Romains 4, vous avez remarqué, quand il est écrit « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations », vous avez ce qu'on appelle un parallèle de Genèse 17, verset 5. Genèse 17, verset 5. Mais nous allons commencer par Genèse chapitre 12. C'est le début de l'histoire d'Abraham. Cet homme est appelé le père des croyants. C'est l'homme qui a reçu la plus grande promesse qu'aucun homme n'ait reçue sur la terre. Vous ne pouvez pas trouver dans la Bible un homme avec un père et une mère terrestre qui a reçu une plus grande promesse qu'Abraham. C'est l'homme qui a reçu la plus grande des promesses. De par lui est né le peuple juif. De par lui, le Messie est venu. Sa descendance. À aucun homme, Dieu a promis un territoire qui a fait une nation. Et nous sommes aussi au bénéfice de la promesse d'Abraham. Il est le père des croyants. Nous sommes ses fils dans la foi. Nous sommes fils de Dieu, mais nous sommes les fils dans le même type de foi qu'Abraham. C'est ce que la Bible nous dit, puisqu'il appelle le père des croyants. Donc c'est un homme clé dont toute la Bible rend témoignage. Pourtant ce n'était pas un homme parfait. Il en a fait des gaffes, et pas des moindres. Au chapitre 12, il est dit la chose suivante. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu deviendras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
Uhoraho abarira Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so uje mu gihugu nzokwereka nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye nzoguha umugisha izina ryawe ndarigire rurangiranwa n'abandi baze bagira umugisha ku bwawe abazoguhezagira nzobahezagira kandi uzokuvuma nzomuvuma kandi muri wewe niho imiryango yose yo mu isi izohega umugisha.
Remarquez bien ici que tous les verbes sont quoi? Ils sont au futur.
Raba majambo yose Imana ikoresha ngaha ari muri kazozuzo.
Vous remarquez bien, tous les verbes ici sont au futur. Je ferai de toi une grande nation. Je bénirai, etc., etc. Tous les verbes ici sont au futur. C'est ce que Dieu voulait faire d'Abraham. Dans Genèse 17, verset 5, c'est le verset que nous avons lu, la citation de Romains chapitre 4. Je crois que c'était verset 17, il me semble, mais je ne suis pas sûr. Regardez bien, verset 17, et je vous redonnerai le contexte après, on va étudier la vie d'Abraham un peu. On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends, père d'une foule de nations.
Kumurongo wa 5 ngo kandi 17 murongo wa 5 ngo ntucitwa Aburahamu ukundi ariko uzokwitwa Aburahamu kuko nkugize sekuruza w'amahanga menshi.
Regardez bien ici le verbe, il est à quel temps?
Rabaneze umurongo bakoresha
ingene? C'est au temps présent.
Uri muri kubu.
C'est pour ça que la Bible dans Romains 4
nico gituma mu Baroma gice cha 4
nous dit que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient.
Batubwira ngo Imana ihamagara ibitariho nkaho byo babihari.
C'est un aspect de la foi que nous allons voir. Mais d'abord, j'aimerais que vous compreniez quelque chose d'important dans la foi. Il y a quelque chose qu'il faut que vous saisissiez bien. Vous voyez, au début du chapitre 12, on revient à ce passage. Dieu va donner des ordres à Abraham.
Et
il va lui dire, sors de ta maison, sors de ta patrie. Si on peut remettre le passage, s'il vous plaît. Merci. Sors de ta maison, sors de ta patrie. Va-t'en de ton pays. Dans l'endroit que je te montrerai, le pays que je te montrerai. Et la Bible nous dit juste après, le verset d'après,
bon,
il lui fait des promesses. On continue, verset suivant. Encore des promesses.
Et
regardez le verset 4 maintenant. Abraham, parti.
Abraham,
parti.
Abraham,
il y a un aspect dans votre foi où Dieu va vous demander de l'obéissance. C'est-à-dire qu'il va vous donner des ordres de faire telle ou telle chose.
C'est
un aspect très important de la foi avec
l'obéissance.
C'est-à-dire, tu dis, Seigneur, tu me demandes de faire ça, je le
fais.
Je ne comprends pas spécialement pourquoi, mais tu m'as demandé, j'obéis. C'est important avec Dieu. Si vous voulez marcher dans la foi, quand il vous donne un ordre, il vous le dit de faire quelque chose. Non pas de dire au Seigneur, Seigneur, d'accord, mais je voudrais que tu me donnes les explications de A jusqu'à Z avant que je fasse la chose. Parce que vous savez, moi, il y a une chose que j'ai apprise à mes dépens,
c'est
de ne pas trop poser de questions à Dieu. Sauf quand il y a vraiment des interrogations où je sens que Dieu veut m'amener dans une autre dimension. Mais parfois, il y a des choses où le Seigneur vous montre et vous dirige et vous dit de faire ça. On
ne
discute pas. Tu obéis. Il y a un aspect dans la foi où tu obéis, c'est-à-dire Dieu te donne un ordre, tu obéis. Il te dit de faire ça, tu obéis. Tu ne discutes pas. Tu
ne
poses pas de questions. Excusez-moi. Tu dis simplement, Seigneur, tu m'as demandé, je le fais. C'est ce qu'Abraham a fait ici. L'obéissance de base quand Dieu te parle, que ce soit dans sa parole, que ce soit quand il te parle personnellement, va t'amener dans un territoire de bénédiction. Ça, c'est quelque chose que tu dois comprendre dans ta vie. Dieu ne t'amènera nulle part s'il ne voit pas en toi un cœur obéissant. S'il te donne des ordres et que tu n'obéis jamais, Dieu arrêtera de te parler en te disant fais ceci ou fais cela. Si tu es tout le temps en train de contester la parole de Dieu en disant oui, d'accord, je fais ça, mais bon, bah, je ne comprends pas pourquoi Dieu nous demande ça et ça et ça.
Vous savez, il y a
des choses qu'on ne comprend pas spécialement.
En tout
cas, tu n'auras pas forcément une révélation sur la compréhension. Très souvent, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Dieu nous demande de faire des choses qu'on ne comprend pas au départ. Et seulement des fois, des années plus tard, on dit, mais Seigneur, maintenant, je comprends pourquoi tu m'avais demandé ça. Donc, c'est très important, cet aspect d'obéissance. Là, tu agis par rapport à ce que Dieu t'a dit. Dieu te dit dans sa parole de faire certaines choses, tu obéis, tu ne discutes pas.
Tu
n'es pas en train de poser la question tous les mois, Seigneur, est-ce qu'il faut que je donne ma dîme?
Oui,
les gens qui réfléchissent comme ça, où il leur faut de 3 jours de prière pour savoir comment ils doivent obéir dans leurs finances,
c'est des gens qui n'avanceront
jamais. Parce que ça montre qu'ils n'ont pas un cœur obéissant.
Abraham
n'a pas discuté. Ça, c'est une partie de la foi.
La
foi, l'obéissance dans la foi. Maintenant, dans la foi, il y a aussi ce qu'on appelle une attente active. C'est-à-dire que tu es dans une situation où tu crois Dieu par rapport à ta circonstance. Et dans cette attente active, tu connais à l'avance le résultat. Ça, je vous garantis, c'est une position exceptionnelle. Parce que la foi, c'est quelque chose qui voit. La foi voit toujours le résultat. La foi ne voit pas la défaite. La foi ne voit pas la mort. La foi ne voit pas que la situation va empirer. La foi n'espère pas que, bon, si ça ne va pas, il y a un plan B. Si
tu
as un plan B, tu n'es pas dans la foi. Les gens qui sont dans la foi n'ont jamais de plan B. Quand
tu
as un plan B, ça veut dire que tu n'es pas dans la foi. Si ça ne marche pas,
ça, ce n'est
pas la foi. Si ça ne marche pas, je cours chez le pharmacien et je prends des médicaments. Mon frère, cours à la pharmacie en premier. Arrêtons d'être soi-disant super spirituel en ayant un plan B.
Soit
tu dis, je vais marcher dans la foi pour la guérison. Mais ça peut être des choses que les médicaments soignent. Tu peux exercer ta foi contre toutes sortes de maladies sans prendre de médicaments. Si la banque ne me prête pas des sous, je vais courir chez mon frère et lui demander un prêt.
Je ne sais pas
des fois s'il faut vraiment avoir la foi pour le banquier, je me demande, je crois pas.
Un
banquier non corrompu, il n'y a pas besoin de foi. C'est soit tu as les sous et qu'on peut te prêter, ou soit on ne peut pas te prêter.
Mais vous savez,
il y a beaucoup de gens, ils super spiritualisent tout. Ils ont besoin de se rassurer que Dieu est dans leur petit truc. Il faut absolument que il y avait Dieu quelque part. Ce jour-là, j'ai rencontré un tel et c'était un clin d'œil du Seigneur. Et c'est leur témoignage. Pauvre chrétien. Mais non, dans la foi, tu n'as pas de plan B. Tu marches sur la parole. Tu sais exactement ce que tu fais. Ça demande une maturité petit à petit que tu acquiers petit à petit. Mais quand tu sais au plus profond de toi-même, tu obéis à ce que le Seigneur t'a demandé de faire, que tu as des convictions qui sont basées sur ce que Dieu a dit dans sa parole ou ce qu'il t'a dit personnellement, que tu es au bon moment, au bon endroit divin, selon ce que le Seigneur te demande
de faire.
À l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui est indestructible, qui voit le résultat. Parce que quand tu marches dans la foi, tu vois le résultat.
Et
tu es déterminé à ce que cette promesse devienne une réalité devant tes yeux. Quand tu marches dans la foi, toutes les circonstances peuvent crier, ça ne marchera jamais. Tout le monde peut dire, tu es fou. Toi tu dis non. Je sais. Le résultat de tout ça, c'est exactement ce que Dieu m'a dit. Ça, c'est la foi. Ça, c'est amener à la réalité ce pourquoi tu crois. Vous savez, quand on marche dans la foi, il y a parfois des gens qui nous entourent qui ont peur. Parce que la foi, des fois, ça fait peur. Aux gens qui nous entourent. Des fois, tu marches dans la foi et les gens te disent, oh là là, ils observent. Il va réussir ou il va... Vous voyez, ça, c'est les disciples dans le bateau. Pierre est sorti de la barque. Et il met un pied sur l'eau. Il va y avoir Jacques, Jean et Thomas.
Johanna, Jacob et Thomas.
Tu as vu là? Il y avait les observateurs des Nations Unies. Ils étaient en train d'observer comment Pierre allait faire. Et croyez-moi, quand il a fait ses premiers pas sur l'eau, derrière, il devait
être.
Parce que quand on marche dans la foi, qu'on est sûr que l'on sait que l'on sait que l'on sait, que le résultat, c'est ce qu'on vient de dire et c'est ce pourquoi on croit. Les gens sont là, ils ont peur. Ou alors, ils fuient. Il y a des gens qui fuient parfois. Parce qu'ils se disent, si on se plante, si la barque coule, je ne veux pas couler avec tout le monde.
Donc,
le mieux, c'est de plonger avant et de partir. Ou alors, il y a les autres observateurs. Ils ont fermé les yeux pendant que vous étiez dans la foire. Et quand vous sortez vainqueur de la bataille, tous les coups mouillent. J'ai toujours cru en toi. Je savais que
tu
allais t'en sortir. Il y a beaucoup de gens comme ça. Beaucoup de gens comme ça. Qui vous diront des choses comme ça. J'étais sûr qu'un jour tu ferais ceci pour Dieu. J'étais sûr. Sauf que le jour où j'étais en pleine galère et que je croyais, tu étais à 1000 km de moi. Je vais vous dire un grand secret. Ce jour-là, regardez-les et dites-leur
oh,
et c'est tout. Ne dites pas mais tu te moques de moi.
Non. Oh, yeah.
C'est pas grave. T'as appris quelque chose de grand. De dépendre de la parole de Dieu. Si t'apprends à dépendre de cette parole, elle t'amènera là où personne ne pourra t'amener. Même si t'es le cousin du roi, vous comprenez l'expression.
Eh
bien, la foi t'amènera là. Ou même tout ton arrière-plan, aussi bon soit-il, ne pourra jamais t'amener. Les années que tu vas passer, ce sont des années où tu vas grimper, monter. Et les gens qui ne t'auront pas vu pendant 3 ans, 5 ans, 10 ans, ils vont dire, waouh, ils vont être complètement étonnés. Ils vont se dire, mais c'est comment tu as fait? Tu as utilisé un secret du royaume. La foi. Apprendre à accrocher ta foi. Grandir dans ta foi. Être déterminé à voir ce pourquoi tu crois. T'accrocher aux promesses de la parole de Dieu. T'accrocher à ce qu'il a dit ici. T'accrocher à ce qu'il t'a dit personnellement. Alors que tu étais là, que ce jour-là tu étais en prière. Il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et Dieu t'avait parlé. Tu sais que Dieu t'avait parlé.
Et
tu avais partagé cela. Comme Joseph. Et personne t'a cru. Parce que personne ne pouvait te croire. Parce que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles s'étaient. Dieu, dans Genèse 17, verset 5, dit clairement à Abraham, je t'ai établi, père d'une grande nation. Je t'ai établi. Pour Dieu, c'était déjà fait. C'est ce que Dieu va dire à Abraham à ce moment-là. Il ne va pas lui dire je ferai. Ça, c'était avant. Pourquoi est-ce que Dieu va lui dire ça? C'est très simple. Parce qu'il y a quelques versets avant qui vont nous dire le secret. Quand on regarde le passage parallèle avec Romains 4, elle nous parle de la foi d'Abraham. Il dit au verset 16 de Romains
4.
Donc c'est par la foi, pour qu'il s'agisse d'une grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui a la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, selon notre Père, à tous. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi un Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père à tous, devant Dieu en qui il a cru, en qui il a cru, qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas.
Ngo nico gituma ibyo byavuye ku kwizera ngo bibi by'ubuntu kugira ngo kuruvyaro kwa Burahamu bwose ibyasezeranwe bize byame bihamye atari bi bya atari bi atari ibi bya atari abi byagezwe gusa ariko nabo kwizera kwa Burahamu niwe sogokuruza batwese mu nyonga ziyo yizeye nkuko byanditswe ngo nkugize sekuruza w'amahanga menshi niyo mana izura bapfuye kandi yita ibitariho.
Alors, pourquoi est-ce que Dieu va dire ça à
Abraham?
Parce qu'Abraham va marcher à partir de Genèse 17. Ça se réfère à ce verset de Genèse 17, verset 5, c'est le parallèle. À un moment où il va réellement marcher dans la foi. La Bible nous dit, dans Genèse 15 maintenant, dans Genèse 15, Abraham va avoir des moments dans sa foi.
Abraham
il va croire.
Yizera.
Il y a des moments où il va douter.
Nibeya.
Où il va vouloir réaliser les promesses par ses propres forces. Il est dit au chapitre 15, au verset 5. La Bible nous dit une chose. Dieu, il est dit, Dieu le mena dehors et dit, contemple donc le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il ajouta, telle sera ta descendance. La Bible nous dit, Abraham crut l'Éternel qui lui compta comme justice.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email msburundi@yahoo.fr.